Bonjour, merci la louange. On m'a toujours dit qu'un jour j'enregistrerai un album. Merci Jérémy. Merci, ça fait plaisir. C'est vraiment super parce que on m'a dit que j'étais de louange, n'importe quoi. Je suis perturbé déjà. De messages. Un peu tard, parce que je ne surveille pas assez l'agenda, c'est ma faute, c'est la faute de personne d'autre. Enfin bref, et je réfléchissais sur un message, et puis il était presque fini, puis je ne sais pas, je ne sentais pas que c'était le message, quoi qu'il fallait faire, enfin tout ça. Et là, et puis après j'en ai fait un autre, et c'est le message qu'il fallait faire, voilà. Je vous laisse juger, par rapport à tout ce qui a été dit en tout cas. Voilà, donc on va se retrouver dans Actes. 26, versets 24 à 29, pour ceux qui ont leur Bible. Il faudrait lire un peu avant, un peu après, mais ça ferait long, quoi. Donc, vous pouvez le lire pendant que je partage. Voilà. Donc, je ne suis point fou. Non, mais moi, je vais commencer au 26, je vous le laisse. Comme il disait ces choses pour sa défense, Festus dit à haute voix, « Tu déraisonnes, Paul. » Ton grand savoir dans les lettres te met hors de sens. Mais lui, je ne déraisonne point, dit-il, excellent Festus. C'est le contexte, hein, excellent Festus. Mais je prononce des paroles de vérité et de sagesse, car le roi, à qui j'ose aussi m'adresser, est informé de ces choses, et je ne crois pas qu'il les ignore, car elles ne sont pas passées en cachette. Crois-tu, roi Agrippa, au prophète ? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu me persuades presque d'être chrétien. Paul dit, je souhaiterais devant Dieu pour peu et pour beaucoup que non seulement toi, mais tous ceux qui m'entendent aujourd'hui devinciez tel que je suis, hormis Céliem. Voilà. Donc vous pourrez le lire un peu après. Alors vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce que c'est ce truc ? Alors, d'abord le contexte. C'est toujours bien d'expliquer l'histoire. Hein ? Donc on est dans une salle de tribunal à Césarée. Paul, depuis 2 ans, est en prison, là-bas, à Césarée. Il a déjà été présenté à l'ancien gouverneur Félix, qui l'a écouté, et qui n'a rien trouvé de répréhensible chez l'apôtre Paul, mais qui l'a gardé en prison. Et là, un nouveau gouverneur arrive, c'est Festus. Alors lui, il va entendre Paul à nouveau, parce que Paul, c'est un peu quand même, c'est pas n'importe qui, il est quand même connu. Il va entendre Paul pour comprendre de quoi on l'accuse, mais lui, il trouve rien. Et Paul, comme citoyen romain, vous savez, il a fait appel à César. C'est pour ça qu'à un moment donné, il doit aller à Rome. Et puis à ce moment-là, César, c'est Néron. Vous ne voyez pas encore fou, mais ça ne va pas tarder. Bon, et à ce moment-là, le roi Agrippa est en visite à Césarée. Et sa sœur Bérénice est avec sa sœur Bérénice. Et Festus lui parle du cas de Paul. Voilà. Ça va ? Agrippa, lui aussi, veut entendre sa défense. Voilà. Alors, qui c'est Agrippa, vous le savez ? Alors, Agrippa, je vais vous faire le portrait, c'est le petit-fils de Hérode le Grand. Donc, c'est celui qui a fait assassiner les nouveau-nés en Israël, hein, pour éliminer Jésus. C'est le fils de Hérode Antipas qui a fait assassiner Jean-Baptiste. Et ce même Hérode Antipas, vous savez, on l'a amené à Hérode Antipas. Et Jésus, c'est le seul moment où il est resté en silence devant un homme. Hein ? À aucun moment il a répondu à Hérode. Voilà. C'est une parenthèse, mais je pense que ça veut dire quelque chose. Donc, il est chargé comme eux, hein, si on faisait de la psychologie de... C'est chargé, quoi. Ouais, de généalogie, waouh ! Et en plus, il semble qu'il ait une relation incestueuse avec sa sœur. Enfin, il semble, apparemment, c'est sûr, mais bon, moi, j'y étais pas. Voilà. Voilà. Et en face, donc, il y a un roi, il y a un gouverneur romain, et en face, il y a un homme prisonnier, seul, dans ses chaînes, assis au banc. Hein. Qu'a-t-il fait ? Il a cru, il a parlé, il a annoncé à tous ceux qui voulaient l'entendre que Jésus, déclaré mort par ses meurtriers, est vivant et ressuscité. Donc, je ne vous apprends rien. Cet homme, c'est l'apôtre Paul. Hein, c'est celui qui a écrit tout le Nouveau Testament d'un point de vue doctrinal, hein, majoritairement en tout cas. hein, Corinthiens, Thessaloniciens, Galates, Romains, etc., etc. Mais ce jour-là, l'apôtre Paul, c'est personne. C'est un petit qui est face à un gouverneur et à un roi. Il ne faut pas oublier cela. Hein. Mais par contre, ce qu'il y a de marrant, c'est que Festus et Agrippa qui s'en souviennent. Mais l'apôtre Paul, on s'en souvient. Donc ce matin, à travers cette situation, ces trois personnes, il y a trois traits qui caractérisent ces hommes. Et comme souvent, tour à tour, on est ces hommes. Hein. D'abord, il y a le plus ignorant des trois, il y a le plus coupable, et il y a le plus joyeux des trois. C'est pour ça que soyez joyeux, ça m'a... Voilà. Donc on va regarder ça en détail. D'abord, le plus ignorant, d'abord. Alors c'est Festus. Lui, c'est un homme instruit, intelligent, a priori honnête. Mais lui, la foi, il ne connaît rien. Il n'en a jamais entendu parler, c'est un Romain. Hein. Apparemment, en matière juridique, il est extrêmement instruit. On ne trouve pas de défaut. Il connaissait son droit. Hein, quand il dit, ce n'est pas la coutume des Romains, quand il va répondre aux accusateurs de Paul, de livrer qui que ce soit pour le faire mourir sans que l'accusé ait été mis à même de se justifier. Hein. Donc ça veut dire on a le droit à la défense. Or, dit-il à son voisin, le roi Agrippa, il ne me semble pas raisonnable d'envoyer un prisonnier sans marquer de ce qu'on l'accuse. Voilà. Ensuite, il va mettre en évidence, sans vraiment trop comprendre, l'objet de la contestation entre juifs et chrétiens. Hein, c'est toujours la même, perpétuelle, thème de discussion entre les supporters et les adversaires du christianisme. Au final, c'est la même chose. Hein. Le point de savoir si Jésus, c'est la base de tout en fait, est mort ou vivant. Hein. C'est tellement fondamental que l'apôtre Paul, j'ai mis point d'interrogation parce que je n'ai pas cherché, je ne m'en rappelle plus, mais nous avons des biblistes. Paul va dire, je crois que c'est en Corinthiens, mais je ne suis pas sûr, que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Hein. Elle n'a aucun sens. C'est fort comme terme. Hein. Et donc, quand Paul en est là, pour Festus, c'est trop. Il admire le savoir de cet homme, mais là, ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Hein. Et là, on voit un homme intelligent, cultivé, instruit. Il se régale apparemment d'écouter l'apôtre Paul. Mais dès qu'on parle de résurrection, de miracle, un mort ressuscité, là, il réagit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui coupe la parole et il s'écrit « Paul, tu déraisonnes. Ton grand savoir dans les lettres te met hors de sens. » C'est-à-dire, ouais, tu es fou, quoi. Tu es fou allié. C'est ça que ça veut dire, hein. Et ce Festus, ben, on en rencontre tous les jours, je pense, dans nos vies. Hein. Des fois, c'est nous. Hein. Vous savez, ces personnes, si on leur parle de morale, de bon sens, d'amour, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Si on parle de l'existence terrestre de Jésus, c'est un personnage historique, bon, ils disent oui, pourquoi pas. Si on parle de sa charité, de sa philanthropie, de sa vertu, de la pureté, de la qualité de ses enseignements, ils vous laisseront parler et ils trouveront même cela génial. Et même certains diront vraiment ce Jésus, il est cool, quoi. Il est bien, c'est intéressant. Et moi je pense que, enfin, on l'a tous vécu ça. Hein. Si on parle de l'évangile à quelqu'un sous une approche morale, un bon, bonne petite morale qui fait de mal à personne, du genre c'est important de faire le bien, c'est important d'aimer les autres, qu'il y a quand même de belles choses dans ce monde, et c'est vrai. Que nous sommes appelés à s'aider les uns les autres, qu'on doit s'occuper des plus pauvres, des plus démunis. Hein. Si on reste sur ce terrain, honnêtement, beaucoup de personnes vous trouveront vraiment génial, formidable, sympathique. Hein. Et en plus, c'est vrai, c'est un des fardeaux que le Seigneur nous a laissés. Hein. Rappelez-vous l'apôtre Paul, les Pierre et Jean et Jacques lui disent de bien te souvenir des pauvres. Donc c'est une vraie responsabilité en tant que chrétienne. Mais si, sans prévenir, vous commencez à dire dans la même conversation que vous croyez, par exemple, je ne sais pas moi, que le mariage c'est important, que le concubinage, bah, ce n'est pas terrible, que vous n'êtes pas d'accord, par exemple. Si vous croyez que ce que vous possédez, bah, c'est à vous, mais que vous êtes conscient que c'est quand même la grâce de Dieu, quand même. Hein. Ce que vous gagnez en travaillant, si vous rajoutez, bah, que vous en donnez une part à votre église, là déjà on va se dire, on est monté d'un cran. Et là, souvent, l'envie de l'auditeur est moins, hein, il est moins à l'écoute. Hein. S'il trouve ça intéressant, laissez agir, c'est le Saint-Esprit. Ça peut, parce que ce n'est pas naturel pour l'homme. Ce n'est pas possible. Hein. Donc, il peut ne pas être d'accord avec vos propos, mais il peut vous respecter, vos opinions, etc. Mais si vous voulez vraiment aborder les vérités de l'Évangile, hein, les grandes questions difficiles, celles qui engagent notre cœur, notre volonté, hein, si vous voulez leur montrer Jésus sur la croix, hein, instrument de pardon pour l'humanité, le rédempteur de vos péchés, si vous voulez leur montrer tout cela, ils réagiront. Si vous dites que cet homme est mort sur la croix, si vous dites qu'il est ressuscité, si vous leur dites que par là, il nous a donné la vie éternelle, hein, on est dans l'espérance de son retour, alors là, comme l'apôtre Paul, la première partie de votre discours a plu, mais la deuxième, il réagira comme Festus. En fait, rien n'a changé. C'est le même principe. Voilà. Cette personne vous dira, mais vous êtes fou, mon pauvre ami. Je vous avais cru intelligent, pondéré, équilibré. Mais là, c'est trop, c'est trop. Hein, hein. Encore une fois, nous avons annoncé cela, malgré tout, et c'est le Saint-Esprit qui touchera la personne. Parce que si vous réfléchissez rationnellement, ce n'est pas choquant qu'il vous trouve fou, quand même. Hein. Alors sinon, une réaction festusienne, j'ai inventé ce mot, hein, festusienne, est normale. Voilà. Et elle prouve ce que l'apôtre Paul déclare. L'homme naturel ne comprend point les choses spirituelles et elles lui sont une folie. Et ça, c'était il y a 2000 ans et c'est pareil aujourd'hui. Donc des Festus, on en croise tous les jours, mais il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer à leur parler. Peut-être ce matin, il y a des Festus parmi nous. Bienvenue aux Festus. Donc il avait une excuse, Festus, hein, peut-être comme quelqu'un ici ce matin. Ben, il était très très peu au courant de tout cela. Hein. Il est dans une culture romaine, il arrive en Israël, il ne sait pas ce que c'est, il ne sait même pas ce que c'est le judaïsme. Hein. Voilà. Jamais il avait peut-être lu l'Ancien Testament. Hein. Il n'avait rien entendu de l'Évangile. Et c'est pour ça que bah, c'était tout nouveau pour lui. Voilà. Et donc, il va arrêter Paul et lui dire « tu déraisonnes », ce qui est logique. Maintenant, le plus coupable, le plus ignorant, maintenant le plus coupable. Lui aussi, cela représente un type d'homme. On est parfois coupable aussi. Donc, à côté de lui, il y a un homme. Lui, il a été en contact avec la religion juive. Donc, il connaît tout, hein, toutes les croyances. Il avait entendu, il avait lu les Écritures. Mais il y reconnaissait certainement une révélation divine. Il connaissait les prophètes, admettait qu'ils avaient annoncé un avenir de grâce et de salut. Et peut-être même qu'il croyait que ces prophéties s'étaient accomplies en Jésus. Hein. Il veut lui aussi rencontrer Paul, c'est le roi Agrippa. Il veut l'entendre. Et il le dit à Festus dans un autre passage parce que cet homme le fascine. Parce que l'apôtre Paul devait être fascinant. Ça, c'est clair et net. Il connaît son parcours. Il a été persécuteur des chrétiens. Il est devenu le plus grand porteur de la bonne nouvelle. Donc, c'est fascinant. Et comment douter que là soit la vérité, le salut et le bonheur ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va lui dire « Tu me persuades presque d'être chrétien. » Presque. Voilà la réponse du roi. Hein ? Il va lui dire « Crois-tu aux Écritures ?» Et il va lui dire « Je sais que tu y crois. » Et là, lui, il va répondre « Tu me persuaderais presque d'être chrétien. » Presque. Donc le roi Agrippa, ben, c'est presque un chrétien. Il a la connaissance, il a les traditions, il a les bons exemples, il a la conviction, mais moins quelque chose. Il a tout, moins quelque chose. Hein. Si l'Évangile, c'était juste un ensemble de doctrines mystérieuses, de faits miraculeux, Agrippa serait certainement chrétien. Il accepte le miracle, il accepte la prophétie, il accepte et comprend la venue de Jésus, il comprend sa mort, sa résurrection. Mais il y a une chose qu'il n'accepte pas dans l'Évangile. Il y a un mot qu'il n'accepte pas, mais c'est le mot par lequel tout commence. Repentez-vous. Demandez pardon pour vos péchés et le Seigneur vous pardonnera. Il ne franchit pas cette étape. Il sait tout, mais il ne franchit pas. Entre lui et le christianisme, il y a un obstacle, la repentance. Alors soit, quand on ne veut pas se repentir, il y a deux solutions. Soit on se sent trop coupable, et on se dit non, je ne mérite même pas le pardon, ou à l'inverse, on ne se sent pas du tout coupable, alors pourquoi on se repentirait ? C'est l'un ou l'autre. Hein ? Moi, dans son cas, je ne suis pas grand clair, mais je pencherais pour la culpabilité de son péché. Parce qu'il sait très bien qu'avoir des relations avec sa sœur, c'est moyen. Hein ? Il sait ce que Dieu en pense. Hein ? Il sait qu'être avec sa sœur, ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu. Se repentir, voilà ce que l'Évangile demande. Voilà ce qu'elle lui demande. Hein ? Parce que quand vous vous repentez, vous reconnaissez que vous avez besoin d'un sauveur. Avant cela, voilà. Donc pour Agrippa, reconnaître cela, c'est forcément reconnaître qu'il est coupable. Alors il préfère prendre le camp de l'intermédiaire, par une boutade, vous savez. Des fois, on est avec des gens comme ça, vous savez, qui vous répondent « Bon, tu ferais presque de moi un chrétien. » Alors Agrippa, le presque chrétien, ben, c'est le plus coupable des trois. Voilà. Et moi, je dirais que des presque chrétiens, on en croise plein hein, chez les non-chrétiens. Hein ? Par exemple, je pense là aussi, vous avez tous croisé, quand une personne non-chrétienne se retrouve dans une épreuve de la vie, hein, elle va se dire, mais que faire, quoi faire, qu'est-ce qu'elle va faire ? Si elle connaît un chrétien, elle va contacter cette personne. Hein, c'est la panique. Et là, elle va venir, elle n'a rien à perdre. Vous priez pour elle, elle vient à un culte, elle trouve ça formidable, elle trouve que tout le monde s'aime, elle est touchée dans son cœur. C'est que le début, c'est un peu comme l'évangile où Jésus va dire les quatre terrains. Voilà. Et puis, la situation s'arrange, l'épreuve est passée, et elle est presque persuadée de devenir chrétienne. Mais elle n'a pas dépassé ce stade, elle repart dans sa vie, on verra plus tard. On a tous connu des gens comme ça, tous. Souvent, ils reviennent quand même, parce que le Seigneur quand même a déjà commencé un travail en eux. Donc, si ça vous arrive avec quelqu'un, ne perdez pas espoir. Et puis, ces personnes, ben, peut-être qu'elles se disent, ben, quand j'aurai rien à perdre, quand ce sera peut-être la fin, quand j'aurai plus à donner mon temps à Dieu, quand j'aurai plus à donner mes forces, mes talents, ben, je le rappellerai, mon argent aussi. Hein. Mais on doit continuer à prier pour ces personnes, parce que personne ne vient par hasard attirer, même si c'est pour se sauver, entre guillemets, c'est pas grave, il n'y a pas de hasard. Pensez à cela. Donc voilà, ou comme Agrippa, presque chrétien, ben ils sont instruits, convaincus, mais sans conversion définitive. Hein. Sans prière, sans besoin de pardon, ils n'ont pas soif de Dieu en fait, tout simplement. Hein. Ils n'ont pas soif de la communion avec les frères. On en croise, il y a des gens qui viennent de temps en temps, par exemple, bon, ça illustre par exemple au culte. On les sent proches, mais on ne les sent pas, on sent, il y a un petit truc. Il y a quelque chose qui n'ont pas donné leur cœur au Seigneur. Voilà. Mais il faut continuer là aussi à prier pour eux. Hein. Voilà. Ce presque chrétien, c'est comme quelqu'un qui manquerait son train, vous savez. Moi, quand je prends le train avec ma femme, avec Sylvie, je n'ai jamais raté un train de ma vie. Seul. Non, avec Sylvie aussi. Non, avec Sylvie aussi. Mais on court toujours. C'est bizarre, hein ? Est-ce un trait féminin ? Je ne sais pas. Par contre, j'ai raté une fois l'avion. Et là, c'était pas ma faute. Voilà, j'en dirai pas plus. Voilà, presque chrétien. Vous voyez ? Vous ratez le train de la vie. Gardons cette image. Si vous n'avez pas embarqué, ben vous n'êtes plus dans le train. Hein. Vous l'avez raté d'une demi-seconde. Hein. Et des fois, parfois, nous aussi, en tant que chrétiens, et là, je ne parle pas de salut, dans des situations, ben chaque fois que dans notre vie, on va chercher ailleurs qu'au trône de la grâce, c'est comme si on ratait le train d'une demi-seconde. On ne va pas au bon endroit. On panique et on fait ce que notre nature nous commande de faire et pas ce que Dieu nous demande de faire. c'est une manière de rater le train aussi. Voilà. Hein? Où le Seigneur va nous parler, puis on résiste. On sait que ce n'est pas sa volonté, mais on continue. Hein? On continue. Et des fois, dans ce sens-là, on pourrait dire que nous aussi, nous sommes presque chrétiens. Presque. Hein? Et puis, il y a le troisième homme de cette histoire, le plus intéressant au final. Hein? Lui, il est à prendre en exemple pour chacun de nous. C'est l'apôtre Paul. Et il va dire, plût à Dieu, que vous fussiez comme moi. Pas assez simple, hein. Hormis ces liens, c'est beau, hein. Plût à Dieu que vous fussiez comme moi. Hormis ces liens. Hein. Paul, il est prisonnier. Il est en face d'un roi avec sa sœur. Il est en face d'un gouverneur. C'est le gratin. Hein. C'est comme s'il était en face, je sais pas moi, d'un président, imaginons aujourd'hui, et d'un premier ministre. Voilà. Certainement, ils sont bien habillés. On peut imaginer ça. Ça va être classe. Hein. Et lui, il est prisonnier, il est enchaîné, et pourtant, ses paroles, il leur dit que c'est eux qui n'ont pas de chance, que lui est un privilégié. Hein. À vue humaine, de quoi il est privilégié ? À vue humaine. Est-ce que l'apôtre Paul était riche ? Non. Il n'y avait que les églises qui le soutenaient et son métier de faiseur de tentes. Donc je connaissais pas le, je connais pas le tarif de l'époque, mais bon, ça devait être des millions. Hein. Faire des tentes, bon, ça devait marcher, mais je n'en sais rien. Bon, bref. Mais l'apôtre Paul, dans un autre verset, dans un autre passage, il nous dit qu'il a appris à vivre avec le contentement. Donc ce n'est pas un problème pour lui. Un jour, il gagne, un jour, il gagne moins. Il vit avec le contentement parce qu'il considère que tout ce qui lui arrive, c'est le Seigneur. Ça, c'est un bel exemple pour nous. Hein. Est-ce qu'il était imposant physiquement ? A priori, non. Hein. Il était un peu chétif. Est-ce qu'il était en bonne santé ? A priori, non. Hein. Il avait une infirmité qui le faisait souffrir. Hein. Par trois fois, vous savez, il va demander au Seigneur de lui enlever cette écharpe. Alors, on ne sait pas ce que c'est cette écharpe, ça a mis beaucoup de discussions. On pense que certains pensent qu'il était épileptique. Bon, je ne sais pas comment il tire cette truc, mais peu importe. Non, mais il y a des commentateurs. Moi, voilà. Peut-être que ça part de Marc, par exemple, ou de Luc, qui était médecin, et puis ça s'est transmis à, je sais pas moi, à Polycarpe, etc., etc., et tous les pères de l'Église, et puis à un moment donné, on a dit qu'il était épileptique. Saint Augustin le dit à un moment. Je ne sais pas d'où il le sort, mais on peut lui faire confiance. Voilà. Donc, est-ce qu'à l'époque, est-il considéré comme chrétien ? Ben, il y a mieux pour réussir sa vie, quand même. Hein. Je veux dire, c'est une secte, d'un point de vue extérieur et de cette époque. Hein. Il y a mieux pour réussir sa vie qu'être apôtre de Jésus-Christ, à ce moment-là. Même aujourd'hui, hein, dans l'absolu. Même aujourd'hui. Hein. Paul va le dire, hein, qu'il est le rebut du monde. Hein. Paul va nous dire qu'il a été lapidé je ne sais pas combien de fois, qu'il est mort deux fois ou trois. Bon, ce n'est pas une vie qui fait rêver, quoi. Hein. Si vous voulez faire ce boulot, vous dites, bon, faut le vouloir, quoi. Hein. Bon, il y a mieux comme vie. Est-ce qu'il avait le respect des églises qu'il avait fondées ? Pas trop, hein. Apparemment, Corinthiens, pas terrible. Galates, pas du tout. Hein. À un moment donné, il va dire que tous l'ont abandonné, hein, excepté Luc, je crois, qui dit, ou Marc, enfin un des deux, mais tous l'ont abandonné. On ne peut pas dire que c'est le gros succès, quoi. Hein. En plus, il est triste parce que son peuple ne se convertit pas. Le Seigneur va lui donner un autre fardeau, les non-juifs, hein, les païens. Donc, tout ça participe à quand même pas être super content et joyeux de sa vie. Hein. Et en plus, il est en prison. Et en plus, normalement, il va être envoyé à Rome et il sait que tôt ou tard, il va mourir. Par contre, il sait qu'il va aller à Rome parce que Dieu lui a dit. Et d'ailleurs, il va avoir un voyage périlleux chaque fois, mais à aucun moment, il est inquiet parce qu'il sait qu'il doit aller à Rome. Est-ce que Dieu a décidé, même si tout s'y opposait, hein, ils ont fait naufrage, etc., il a été piqué par une vipère, etc., etc. Ça ne crème pas parce qu'il connaît le terme du voyage. Et c'est Rome. Hein. Voilà. Il a fait un ministère de 30 ans hein, pour faire avancer le royaume de Dieu. Beaucoup de fatigue, beaucoup de choses. Et il va dire quand même à un roi, il va dire à un gouverneur romain, des hommes de puissance, plût à Dieu que vous fussiez comme moi. Hein. Et c'est le même qui, en prison à Rome, écrira l'épître aux Philippiens et il dira, ce que nous a rappelé André, soyez toujours joyeux. Quand on décrit tout ça et ça, c'est un peu compliqué. Parce que Paul, l'apôtre Paul, il a des sujets de joie. Voilà. Et ces sujets de joie, on pourrait se les approprier un peu. Je crois que ce matin, on se les a déjà un peu appropriés. Hein. Le principal sujet de joie, à mon sens, le premier en tout cas, c'est la joie d'être pardonné. C'est une vraie joie, ça. Hein. Racheté dans le passé, aimé dans le présent, héritier dans le royaume de Dieu. Ça, c'est un vrai sujet de joie. Co-héritier avec Christ pour l'avenir. Hein? La joie de pouvoir dire, je suis assuré que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu témoigné en Jésus-Christ. Voilà un vrai sujet de joie. On est pardonné, on est aimé. Voilà un vrai sujet de joie. Un autre sujet de joie, pour l'apôtre Paul, mais peut-être pour chacun de nous, c'est d'avoir travaillé à l'avancement du royaume de Dieu. Hein ? Donc pour lui, c'est des églises. Hein ? Il a fondé pas mal d'églises. Hein ? Il est resté 2 ans ou 3 ans à Éphèse, par exemple, pour enseigner. Il a enseigné tous les jours. Ça devait être quelque chose quand même. Hein ? Sentiment de devoir accompli. Quelle joie, avec quelle joie le Seigneur disait « J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Et l'apôtre Paul va dire quoi ? Dans un peu le même parallèle, au terme de sa vie, « J'ai achevé la course. » Ça nous concerne tous. Hein ? Qu'est-ce qu'on, hein ? Se convertir à la 11e heure, comme il est dit à un moment donné, c'est pas important, c'est suffisant pour le salut. Mais donner du temps pour ses frères et sœurs, c'est une récompense aussi de ce salut. Hein ? Un troisième sujet de joie pour Paul, c'est de savoir qu'il était à la place où Dieu voulait qu'il soit. Ça, c'est important dans nos vies. Est-ce que je suis à la bonne place ? Est-ce que Dieu me veut là, ou me veut là, ou me veut là ? C'est vraiment un vrai sujet. Hein ? Lui, il est prisonnier, hein, dans un cachot, habiter une cabane ou un palais, en fin de compte, ou une belle maison, être accusé sur un trône, avoir une profession manuelle, être à son compte, être chef d'entreprise, être malade dans un lit ou se sentir en pleine forme, rempli de talent, tout cela n'est pas la question. Mais d'être à la place où Dieu nous a mis, de faire l'œuvre qu'il nous a préparée d'avance, quand on n'est pas dans cette place, trouble, revers, mécontentement, on n'est pas heureux, on n'est pas heureux, on n'est pas joyeux. Quand on est à la place où Dieu nous veut, il y a de la satisfaction, il y a de la joie, il y a de la paix. C'est comme ça qu'on le sait, où on est avec le Seigneur. Hein ? Paix, prospérité. Et enfin, un autre sujet, c'est sa vision de la finalité qu'il nous rappelle dans 2 Corinthiens, et c'est pour chacun de nous. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et notre regard ne se rattache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire. Ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons en effet, Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. C'est un vrai sujet de joie. Une demeure éternelle. On va se régaler. Hein ? Toutes ces sujets de joie, elles sont destinées à chacun de nous. Elles nous appartiennent. Hein ? Voici en résumé la place la plus avantageuse. Ce n'est pas celle du gouverneur, ce n'est pas celle du roi, c'est celle de l'apôtre Paul. Hein ? Il n'y a qu'avec le Seigneur qu'on peut réaliser cela. Alors être sauvé pour le présent, pour l'éternité, être à la place où Dieu nous veut, savoir que tout cela conduit dans sa demeure éternelle, Quoi de mieux ? Hein ? Et je pense qu'on a tous rencontré, et soi-même, malgré des fois nos difficultés, des temps difficiles à vivre, qu'on ne voudrait pas changer, parce que la vie chrétienne est merveilleuse. La vie chrétienne est merveilleuse. Hein ? Peut-être ce matin, certains sont ignorants de la foi, de la grâce de Dieu. Ben, j'espère que le Seigneur vous a touché ce matin. Pour d'autres, si vous vous sentez coupable de quoi que ce soit, on a un Dieu, on peut se repentir. Hein. Recevons la parole de Dieu, parole de vie. Le Seigneur nous aime. Il est juste et fidèle pour pardonner nos péchés. Voilà. Amen. Voilà. Donc, soyez tous bénis et surtout, soyez joyeux. Amen. Soyez bénis. Merci.
Merci Fred.